Bonsoir à tous et bienvenue dans Alter Echo. Après deux longues semaines depuis l'émission précédente, au micro Olivier et à la technique pour la première fois Olivier aussi. C'est en effet la première fois que je fais tout à la fois. Attendez-vous donc à des petits couacs ou à de longs silences et soyez gentils de me les pardonner d'avance. Vous pouvez retrouver Alter Echo tous les mercredis soirs à 22h sur Radio Campus et c'est la rediffusion tous les vendredis à 14h. Je vous rappelle également l'adresse du site internet www.multimania.com/alterecho en un seul mot. Vous y retrouverez les textes et les sons de chaque émission. Si vous avez dû vous passer d'Alter Echo la semaine dernière, ce n'était pas en raison d'un petit coup de flemme de votre animateur préféré, bien au contraire. Mercredi dernier, j'étais à Nice pour y suivre le contre-sommet, la contestation du sommet européen de Nice. J'en ai ramené des interviews et un récit complet des événements, et cette émission sera entièrement consacrée au sommet de Nice, au contre-sommet et à la façon dont les médias d'ici et d'ailleurs en ont rendu compte. Mais avant de passer au thème de la semaine, une petite parenthèse pour féliciter la RTBF qui a eu cette semaine un coup de génie, une inspiration divine. Cette semaine est à la RTBF la semaine de Pierre-Carles, le pestiféré du paysage audiovisuel français. Pour Pierre-Carles, on ne peut pas parler honnêtement de la télévision à la télévision. Il l'a brillamment démontré dans un petit reportage où il ridiculisait les vedettes des émissions politiques de la télé française. Ce reportage qui lui était commandé a pourtant été censuré et du coup, Carles a réalisé un film d'1 heure et demie sur cette censure. Ce film s'appelle Pas vu, pas pris et il n'a jamais été diffusé et ne sera jamais diffusé sur aucune chaîne française. Le seul endroit où ce film a été diffusé par la télévision, c'est le Québec. Sautez donc tous sur vos magnétoscopes, puisque cette semaine, la RTBF a programmé deux diffusions de ce cocktail Molotov télévisé. Il passera ce jeudi 14 décembre à 21h05 sur la 2 et il sera rediffusé le dimanche 17 à 23h20 sur la 1. À ne pas rater, puisqu'il ne repassera pas de sitôt. Comme la RTBF est décidément en folie cette semaine, elle ne s'est pas contentée de diffuser le film, elle a également invité Pierre Carles à participer au débat de l'écran témoin lundi dernier sur le thème des connivences entre acteurs des médias et du monde politique. Ce débat a une fois de plus illustré l'impossibilité de la télévision à parler honnêtement d'elle-même. En gros, le débat fut ronronnant et hypocrite comme on pouvait s'y attendre. Quelques énormes non-dits planaient sur le plateau, mais ils n'ont jamais pu se poser parce que la place est décidément trop bien gardée. Il y aurait beaucoup de choses à ajouter sur le sujet, et c'est précisément ce que nous ferons la semaine prochaine, puisqu'Alter Echo sera entièrement consacré au passage de Pierre-Carles à la RTBF, avec une longue interview du principal intéressé, une critique du débat de l'écran témoin et des interviews de quelques autres participants à ce débat, notamment Alain Gerlache et Fabrice Jacquemart. En attendant, ne ratez pas, pas vu, pas pris, vous ne vous en remettriez jamais.
Alors que tiene una pena. Son injusticias de siglos que todos ven aplicar. Nadie le ha puesto remedio, pudiéndolo remediar. Levántate, juez. Un día llega de lejos.
Place au thème du jour, le sommet de Nice. Pour l'Union européenne, il s'agissait de parler d'avenir. L'Union a en effet décidé de s'élargir à l'Est, dans un avenir proche, afin de rassembler un grand marché de plus de 500 millions de consommateurs. Seulement, elle atteint avec les 15 États membres actuels les limites de ses institutions et il était impératif de remanier le fonctionnement de l'Europe pour accueillir les futurs nouveaux membres. C'était l'enjeu principal du sommet, du moins à en croire les dirigeants européens eux-mêmes et la presse qui relaye leurs opinions. À part ça, il y avait encore bien d'autres sujets à l'agenda, dont certains étaient des corollaires directs de cette refonte institutionnelle. Il y avait notamment la redéfinition du nombre de sujets votés à la majorité qualifiée et non plus à l'unanimité. Pour certains domaines, le droit de veto des États membres paralyse le fonctionnement et la prise de décision, notamment en matière sociale. D'autre part, ce droit de veto est ressenti comme nécessaire dans d'autres domaines, notamment ceux qui sont couverts par l'article 133 du traité d'Amsterdam, à savoir les investissements, la propriété intellectuelle, et notamment les organismes génétiquement modifiés, et les prestations de services, notamment en matière de santé, d'éducation ou de transport. Les pontes de la Grande Europe devaient également adopter la Charte des droits fondamentaux, une charte qui rassemble en un seul document des principes qui existent déjà de façon disséminée dans divers textes européens. Toutes sortes de sujets y sont abordés, notamment les droits humains, l'interdiction de pratiquer le clonage reproductif sur les êtres humains et bien d'autres choses encore qui vont de soi, mais qu'il est toujours utile de préciser. Là où ça coinçait, c'est qu'une charte de ce type ne pouvait évidemment pas faire l'impasse sur les droits sociaux, et de ce côté-là, on pouvait le craindre, la charte était plus que maigre. Au chapitre social, l'Europe n'a jamais fait très fort, et la façon dont cette charte est formulée semble confirmer que l'Union européenne n'a pas l'intention d'avancer à pas de géant dans l'avenir, c'est le moins qu'on puisse dire. Le droit au travail devient une vague liberté de travailler, les droits aux prestations sociales et à un niveau de vie décent sont plus que flous, et on note entre autres l'absence totale de définition d'un seuil européen de pauvreté, ainsi que celle d'un droit au logement. De manière générale, ce texte se contente de reprendre tous les droits minimaux en vigueur dans les pays membres, une espèce de minimum minimorum pour être certain de n'entraver en rien la marche ultralibérale des nations européennes. Dans le même texte, le droit de propriété et la liberté d'entreprendre se portent mieux que jamais. Merci pour eux. De plus, cette fameuse charte des droits fondamentaux avait avant le sommet un statut pas clair du tout. Le texte devrait servir de base dans un avenir plus lointain pour une vraie constitution européenne. Mais dans un premier temps, les dirigeants européens ne savaient pas très bien s'il fallait en faire un texte indicatif de bonnes intentions pieuses ou un document contraignant pour tous les membres de l'Union. Comme il ne s'agit en gros que d'une compilation des minima, le fait de la rendre contraignante et donc de l'inscrire dans le traité final du sommet n'aurait en soi pas engagé grand monde à grand-chose, mais même ça, c'était trop demandé aux États membres. Grande-Bretagne en tête, on s'en serait douté. La charte des droits fondamentaux a donc été signée d'entrée de jeu, mais elle n'a pas été proclamée officiellement, ce qui en fait de facto un chiffon de papier tapissé de bonnes intentions un peu faibles. La signature de cette charte était donc acquise d'avance, alors que la veille, le mercredi 6 décembre, les rues de Nice s'étaient remplies de plusieurs dizaines de milliers de manifestants, dont la plupart protestaient précisément contre les termes de la charte. Une fois de plus, l'Europe a prouvé à quel point l'expression démocratique lui est chère et à quel point elle est capable de tenir compte de l'avis de la base. Justement, pour éviter que cette base un peu turbulente et composée de va-nu-pieds puisse pleinement s'exprimer, les autorités à tous les niveaux s'étaient donné le mot pour saboter d'avance le grand rassemblement du contre-sommet de Nice. Au niveau national, la France a livré un bel effort. Premièrement, des manifestants ont été empêchés de prendre le train dans plusieurs villes de France, ce qui a mené à quelques échauffourées, notamment à Bordeaux. Il est vrai qu'à certains endroits, les manifestants exigeaient des trains gratuits pour les emmener à Nice, mais on ne voit pas en quoi ces exigences seraient extravagantes, compte tenu du fait que les participants au sommet officiel, qui ne sont pourtant pas dans le besoin, bénéficiaient gratuitement de toutes les attentions. Transport, hôtel Coquet, repas. Tout ça aux frais de la princesse, c'est-à-dire aux frais notamment des gens qui demandaient la gratuité des trains. Les journalistes du sommet officiel bénéficiaient pour leur part gratuitement de petites smarts pour circuler librement dans les rues de Nice. Toujours au niveau national, par un acte purement opportuniste et profondément anti-européen, la France a suspendu à sa frontière avec l'Italie les accords de Schengen, ce qui a permis de bloquer à ladite frontière un train qui transportait plus de 1 000 manifestants italiens. Ils ont eu beau protester devant l'ambassade de France à Vintimille, négocier, revendiquer, rien n'y a fait. Après 2 jours de blocage, ils ont été contraints de rentrer chez eux. Au niveau local, les participants au sommet officiel disposaient d'un allié de choix, Jacques Peyrat, maire RPR de Nice, ancien membre du Front National. La seule chose qui a changé, c'est la carte de son parti. Pour le reste, le sieur Peyrat a fait honneur à son passé. La sécurité et le déploiement policier étaient extrêmes, mais ça, Peyrat n'en est pas le seul responsable. Par contre, ce nasillon à peine camouflé a fait tout ce qui était en son petit pouvoir pour empêcher les contestataires de se loger. Il a terrorisé d'avance toute la population de sa ville si tranquille et si propre, et ce n'est qu'à grand-peine que les organisateurs du contre-sommet ont réussi à lui arracher l'autorisation d'utiliser une salle de sport, la salle Lhérite, pour organiser les conférences du contre-sommet. Bref, tout avait été mis en œuvre pour enrayer la contestation autant que possible. Comme si toutes les mesures contraignantes et policières ne suffisaient pas encore, la presse, ou en tout cas une partie de la presse, y a mis un peu du sien. Là, c'est en particulier du soir qu'il est question. Alors que tous les autres journaux consacraient à la grande manifestation du mercredi au moins un article sérieux, qu'il soit bien écrit ou non, Le Soir estimait que plus de 60 000 personnes dans les rues ne valent en tout et pour tout qu'une grosse légende de photo. La seule répercussion que l'on retrouve dans notre grand quotidien de référence est donc une photo de foule, accompagnée d'une petite explication sommaire. On y apprend que les manifestants, dans l'indifférence des Niçois, réclamaient une Europe sociale, notion que Le Soir prend bien soin d'entourer de guillemets, l'air de dire c'est pas nous qui le disons, c'est eux. Voilà la seule précision que fournit Le Soir en ce qui concerne le fond du mouvement. Pour le reste, ce ne sont que des détails de nombre et de nationalité. Aux États-Unis, quelques centaines de voix aux présidentielles valent 5 semaines de feuilleton américain. En Europe, les cris de plus de 60 000 citoyens valent une seule phrase et une photo. Le Soir s'est décidément distingué les vraies questions de démocratie. La Libre Belgique avait-elle bel et bien envoyé un reporter dans le grand défilé? En gros, l'article se contente d'insister sur l'opposition entre syndicats et antimondialistes de la mouvance Seattle, tout en soulignant que la confrontation n'a pas eu lieu. On se demande bien de quelle confrontation il peut s'agir, et c'est également l'avis des personnes que le journaliste a interrogées. Ce dernier devra probablement encore se faire à l'idée qu'une contestation peut s'organiser de façon commune et unie sur des revendications différentes, mais face à un adversaire commun, et tout ça sans qu'il y ait confrontation, comme il dit. Dans le sous-titre de l'article, il rappelle les beaux scores sociaux de l'Union européenne, 9% de chômeurs et 18% d'Européens qui vivent sous le seuil de pauvreté, dont on ne sait cependant pas bien comment il est défini. On le constate, et il ne fallait sans doute pas s'attendre à mieux, la grande presse a rendu compte de façon très fragmentaire et quelque peu méprisante de la mobilisation citoyenne à la veille du sommet de Nice. Pour tenter de compenser modestement ce parti pris, j'ai interrogé quelques personnes dans la foule des manifestants sur les raisons de leur mobilisation. Pour commencer par le commencement, je suis allé mercredi matin à la plage pour voir des militants d'ATTAC, l'association pour la taxation des transactions financières pour l'aide aux citoyens. Des militants d'ATTAC donc se mouiller pour leurs idées. Les baigneurs un peu congelés d'ATTAC figuraient le lendemain en première page du Morgen. J'ai interrogé l'un d'eux. On est en décembre, il pleut des cordes, t'es sur la plage de Nice et tu sors de l'eau, pourquoi t'es allé te baigner?
Bon, il pleut pas des cordes, mais comme je disais tout à l'heure, quitte à se mouiller, autant y aller pour des idées, quoi. Et puis de montrer qu'on est prêt à manifester de manière ludique, dans la tradition locale et pour un engagement qui n'est pas uniquement moral, mais aussi physique, quoi. Montrer qu'on est prêt à assumer, voilà.
Les idées pour lesquelles tu es prêt, tu as été visiblement prêt à te mouiller, c'est quoi en gros?
Les idées, moi je dirais la principale raison, c'est qu'il y a un débat sur tout ce qu'on est censé nous proposer, quoi, qu'il y ait vraiment une démocratie à la base. J'ai pas forcément d'idées bien arrêtées ou de propositions très concrètes, mais je pense qu'il y a plein de gens responsables, capables dans tous les milieux associatifs, société civile de manière générale, qui ont des choses à dire, et ben je veux qu'on les écoute, quoi, qu'on discute pas de la charte des droits fondamentaux sans qu'on autorise en interdisant une manifestation quoi de. L'hébergement dans la ville de Nice, où le citoyen en fait est complètement exclu de cette discussion-là. Voilà, je souhaite que on se pose des questions sur le désintérêt des citoyens, de la population lors de certains votes. Bon, c'est un regain c'est un sursaut de ce mouvement citoyen-là. Il faut en profiter parce que sinon il y a un déphasage de plus en plus important entre la classe politique et puis chaque individu qui est en droit de voter. Voilà.
L'après-midi, c'était la manifestation à proprement parler. Toujours pour faire les choses dans l'ordre, voici tout d'abord Guy Gianni, membre du collectif des Alpes-Maritimes, pour un contre-sommet européen, le collectif qui organisait la mobilisation et une partie du contre-sommet. J'ai commencé par lui demander quelles étaient les associations regroupées au sein du collectif.
Alors, une quarantaine d'organisations qui se sont constituées en collectif il y a maintenant près de 6 mois et qui ont pris en charge à la fois la dimension, disons, politique pour essayer de mettre en avant le thème d'une Europe sociale et solidaire et la dimension organisationnelle. Et vous imaginez que c'est très lourd.
Il s'agit de quel type d'organisation qui sont réunies?
Alors, il y a, c'est une particularité du collectif des Alpes-Maritimes, des organisations politiques. Comme le PCF, les Verts, les Alternatifs, la LCR et la gauche socialiste, des mouvements associatifs comme le MRAP, comme ATTAC, bien évidemment, et il y a des organisations syndicales comme l'UNEF, comme SUD, donc une palette assez large
C'est
d'organisations.
pas un peu délicat pour les Verts, par exemple, et le PC qui sont au gouvernement, ils se retrouvent pas écartés entre deux chaises?
Alors, il faut peut-être leur demander à eux et non pas à moi, puisque moi, je représente le collectif dans sa totalité, et non pas telle ou telle organisation, qu'elle soit ou non membre du gouvernement.
Apparemment, la mobilisation est réellement un succès. Comment vous appréciez ça, vous?
Alors, très positivement, d'abord, on ne voit pas d'un côté la Confédération européenne des syndicats et de l'autre les anti-mondialisations, comme on dit. Pourquoi? Parce que dans les deux cas, le thème de l'Europe sociale et solidaire est mis en avant. Ce qui est certain, c'est qu'il y a probablement du côté de ceux qu'on appelle les anti-mondialisations, hein, des organisations plus radicales qui ont envie d'aller plus loin, mais il y a quand même une forte mobilisation unitaire et on s'en félicite. Nous appelons à organiser une convergence citoyenne pour s'adresser au plus près des chefs d'État, pour qu'ils nous entendent et si possible pour qu'ils reçoivent une délégation. Pour que nous puissions mettre en avant les thèmes principaux de notre action.
Et ils vont la recevoir, la délégation, il y a des nouvelles?
Aux dernières nouvelles, c'est-à-dire hier même, nous serions reçus demain ou après-demain. Ce sont les renseignements généraux eux-mêmes qui nous l'ont appris. Nous verrons si les chefs d'État tiennent promesse.
L'enjeu de la journée d'aujourd'hui, enfin du contre-sommet, c'est pas uniquement la mobilisation massive, c'est également un vrai contre-sommet, c'est-à-dire avec des conférences et un certain débat d'idées.
Alors, pour nous, pour le collectif 06, c'est tout à fait essentiel. C'est-à-dire que nous avons évidemment créé les conditions pour que les mouvements les plus radicaux puissent se rassembler ici à Nice, mais nous avons aussi voulu organiser toute une série de débats, de forums. Nous ne sommes pas les seuls d'ailleurs, nous ne prétendons absolument pas au monopole. Il y a des ONG regroupées dans le collectif Article 1er, le collectif pour la Charte des droits fondamentaux également, qui organise des débats demain et après-demain. Pour ce qui nous concerne, nous organisons 4 débats, 2 demain soir à 18h30 à la salle Lérite, un sur le service public et l'emploi, les services publics et l'emploi, un second sur la taxe Tobin dans la zone euro, et le vendredi soir à partir de 18h30 au CLAJ, 2 forums également en débat, avec d'une part la charte des droits européens, la charte des droits fondamentaux, et d'autre part la démocratie face aux discriminations, œil à l'extrême droite.
Puisque vous parlez de débat, vous avez invité des gens qui participent au sommet à ces débats?
Alors, nous aurions souhaité inviter des gens qui participent au sommet. C'est vrai que nous ne l'avons pas fait. Il nous a semblé qu'il était difficile, dans le cadre de l'organisation d'un contre-sommet, de demander à des représentants des chefs de l'État de participer à nos débats. Mais qui sait, hein, la prochaine fois, peut-être le ferons-nous.
Dans l'immense cortège des manifestants, j'ai croisé entre autres Patrick Roux, qui milite à la fois à la CGT et au mouvement ATTAC. Qu'est-ce qui vous heurte, vous, en particulier par rapport à ce qui est discuté au sommet?
Ah ben c'est essentiellement les déréglementations qui sont en cours, notamment dans le domaine de l'énergie, en même temps la charte européenne qui est en discussion et qui constitue, à mon avis, des graves reculs sociaux qui touchent toute la planète, aussi bien les gens dans les pays riches que dans les pays pauvres.
Mais là, c'est un sommet européen, c'est pas tellement des décisions au niveau mondial qui se prennent.
Ben, disons que à partir du moment où nous on nous privatise au nom d'une certaine mondialisation, donc c'est même si c'est au niveau du sommet européen, on a quand même des lois qui sont prises au nom de l'OMC, des règlements qu'on applique au nom de l'OMC, et donc c'est ça qu'il faut combattre et faire évoluer tout au moins dans un sens positif. Déjà, si on arrive à faire une Europe orientée socialement, je pense qu'au niveau de la mondialisation, ça pourra peser pour une autre mondialisation.
Vous pensez que c'est bien parti ?
Ah ben, toutes les questions de rapport de force, je crois que là il y a des convergences qui sont en train de se faire entre syndicats, associations, et je pense que ça c'est de bon augure pour l'avenir.
Qu'est-ce que vous attendez la mobilisation est assez forte, donc est-ce que vous pensez que concrètement ça peut avoir une influence directe sur le sommet qui se tient actuellement ?
Ah ben déjà je pense que la manière de s'effectuer la mondialisation passe de moins en moins. Les convergences, je pense que les gens qui prennent les décisions ne pourront que constater qu'il y a des convergences qui sont en train de se nouer sur le terrain, donc il va falloir en tenir compte. Je crois savoir que la charte européenne qui devait être signée maintenant ne se fera pas. Il y a déjà je crois, un premier recul qui est positif. Je pense qu'il est important aussi qu'on essaie de se structurer davantage et de faire des propositions, notamment la taxation des revenus financiers, s'attaquer aux paradis fiscaux et supprimer la dette du tiers-monde. C'est des choses qui peuvent être faites relativement rapidement et qui peuvent permettre de modifier, d'améliorer les choses.
Moi, c'est Nicolas, je suis militant à la LCR et je viens ici au contre-sommet de Nice pour protester contre la charte soi-disant sociale, qui est en fait une charte antisociale, qui veut faire reculer le droit des travailleurs, des femmes, des jeunes, des immigrés partout en Europe, et contre l'Europe qui sont en train de nous construire, qui est l'Europe des banquiers et des patrons.
Qu'est-ce que tu crois qu'on peut attendre concrètement d'une mobilisation comme ça et d'un éventuel blocage du sommet ?
Bah, ce qu'on peut attendre, c'est une remise en cause de la charte des droits fondamentaux qui essaye de mettre en place la communauté européenne. Et puis, c'est, j'espère, de nouveaux droits qu'on va gagner. J'espère qu'on va obtenir une harmonisation des droits, non pas par le bas comme ça se passe aujourd'hui, mais par le haut, qu'on prenne les droits les meilleurs dans chaque pays et qu'on harmonise tout ça par le haut.
Ce serait effectivement très bien, mais jusque-là, on a l'impression d'être plutôt dans une spirale descendante pour tout ce qui concerne les droits sociaux. Et on n'a pas tellement l'impression que les messieurs qui sont enfermés dans les centres de conférence entendent ce qui se passe dehors. Donc,
C'est pour ça qu'il faut continuer à construire les mobilisations contre la construction antisociale de l'Europe, construire les mobilisations contre la mondialisation financière, contre la mondialisation qui se fait contre les peuples européens et du monde entier. Et il faut continuer à travailler, à mobiliser. Aujourd'hui, il y a des dizaines, des centaines de milliers de personnes dans les rues et ça peut jouer qu'en notre faveur. Je crois qu'ils ont déjà arrêté le sommet de Seattle grâce aux mobilisations. Demain, la mobilisation elle sera encore plus grande et j'espère qu'on pourra gagner de nouveaux droits.
Outre les drapeaux rouges, il y avait aussi des drapeaux verts. La Confédération paysanne, le mouvement de José Bové, était présente. J'ai posé quelques questions à l'un de ses membres, Daniel Vuillon, qui est maraîcher dans le Var, pas très loin de Nice. Mais nous allons entendre d'abord Edgar Malocena, maire vert de Villars-sur-Var et vice-président du conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur. Je lui ai demandé quel était le rapport entre l'écologie et le sommet de Nice.
L'écologie ne s'adresse pas qu'aux petits oiseaux. L'écologie, c'est le social, l'environnement, la culture, l'économie. Et dans ce cadre-là, il est bien évident que nous avons des choses à défendre. L'économie, par exemple, est intimement liée à la défense de l'environnement. Si l'on voit comment ça se déroule aujourd'hui, et ça fait 2 mois qu'il pleut, on est en train de dire que le climat change, mais le climat va changer politiquement si l'on continue à se battre, bien entendu.
Quelles sont les décisions qui risquent d'être prises ici au sommet européen qui vous heurtent et que vous aimeriez arriver à changer ?
Nous voulons une Europe démocratique. Le Parlement n'a pas de pouvoir suffisant actuellement. Une commission nommée par des chefs d'État ou par des États ne nous semble pas être le meilleur élément. Ce que nous souhaitons, c'est qu'ici se décide enfin des pouvoirs élargis du Parlement et se décide enfin un embryon d'une Europe des régions, sur le plan donc de l'organisation politique, bien entendu. Sur le plan social, nous souhaitons que la charte soit revue, parce qu'elle est bien en deçà de ce qui existe, ne serait-ce qu'en France. Nous souhaitons que la charte sociale parte du plus haut et fasse monter du plus bas vers le plus haut et pas l'inverse.
Quelles sont les chances d'être entendu, à votre avis, de ces messieurs qui se réunissent dans l'Acropolis ?
Je crois que ces messieurs sont très sensibles à l'opinion publique. S'ils regardent comment se comportent les Européens au moment des votes aux Européennes, ils doivent avoir certaines craintes. Dans certains pays, on ne vote même plus à 50%. S'ils veulent être représentatifs de l'Europe et de leur peuple, il leur faut nécessairement modifier leur comportement et modifier le comportement des hommes politiques en Europe.
Vous pensez que ça les dérange, ce manque de participation aux élections européennes? Ça ne les empêche pas de siéger là où ils siègent?
On peut dire que pendant quelques temps, quelques années, ils seront, comme pour les histoires d'environnement, à la haie a prouvé qu'il y avait des problèmes graves et qu'on ne les résolvait pas. Mais je crois qu'en général, dans les pays démocratiques, lorsque les peuples poussent, les politiques écoutent ne serait-ce que leur discours actuellement sur les questions du développement durable, un mot banni de leur vocabulaire il y a 2 ans et que l'on entend dans toutes les bouches actuellement. Donc je pense qu'ils vont évoluer, oui, j'y crois.
D'accord, mais ils évoluent dans leurs discours, mais justement à propos de développement durable, on a vu récemment à La Haye que les discours ne suffisent pas.
Alors, je suis bien d'accord que les discours ne suffisent pas, mais retournez 5 ans en arrière. Il y a 5 ans en arrière, les propos tenus dans les conférences maintenant internationales n'existaient même pas. Donc il faut d'abord une conscientisation, je crois, au départ, pour qu'ensuite, culturellement, ce soit acquis et qu'ensuite, politiquement, ça se modifie. La politique est aussi une affaire de culture.
Mais vous pensez qu'un jour, ils pourront passer des propos aux actes réels?
Je ne suis pas certain que ceux qui dirigent actuellement l'Europe sont en mesure de faire ce que vous dites. Je pense plutôt qu'il leur faudra des remplaçants.
Il n'y a pas de sujet spécifiquement agricole ici au sommet. Qu'est-ce qui amène la Confédération ici?
Ah ben quand même, il y a quand même un certain nombre de droits du citoyen et dans le monde agricole, on fait partie aussi quand même des citoyens et on a notre mot à dire. Donc je crois que sur le sommet européen, il y a un certain nombre de propositions à faire. Et si on est là, c'est parce qu'on ne voudrait pas qu'on oublie qu'il existe des paysans et qu'il existe une petite paysannerie qui fait des produits de grande qualité et qui ne sera pas broyée par le rouleau compresseur du productivisme et des intérêts financiers.
La mobilisation est assez massive. Vous pensez que ça peut avoir une influence concrète sur ce sommet-ci?
Quand on est démocrate, on est obligé de tenir compte de l'opinion de la rue. Ou alors on n'est pas démocrate. Et quand la rue reste l'expression possible du peuple. Et bon, ben, la démonstration de force qui est présentée aujourd'hui montre que quand même les décideurs doivent faire attention à l'opinion de la rue. Et peut-être voir un peu quels sont les arguments des gens qui sont descendus aujourd'hui dans la rue, non pas pour le plaisir, mais pour venir exprimer quelque chose, quoi.
Vous êtes présent ici dans la manifestation pour faire entendre votre voix. Est-ce que vous irez plus loin? Vous serez au blocage pur et simple du sommet cette nuit, demain matin?
Je ne peux pas vous répondre sur cette question.
Il n'y a pas de mot d'ordre de la Confédération?
Non, je peux rien vous dire sur le sujet, quoi.
Voilà juste un petit échantillon modeste et incomplet des revendications et motivations des manifestants, mais c'est toujours mieux que les petites phrases ou les citations tronquées qu'on a pu lire ou entendre dans la presse. Heureusement, la presse alternative était sur place, notamment par le biais d'un centre Indie Média mis sur pied à Nice tout spécialement. C'est à cette occasion qu'on a pu se rendre compte du fait que les médias alternatifs gagnent en notoriété et en diffusion. D'une part, certains médias traditionnels se sont beaucoup intéressés au phénomène à Nice, et d'autre part, on a pu voir des représentants de grandes associations participant au contre-sommet venir au centre Indie Média pour livrer des informations à diffuser. C'était notamment le cas de Vincent Espagne, administrateur de l'Observatoire de la mondialisation, qui venait expliquer que son organisation s'est vue refuser tout net une accréditation pour le sommet officiel. J'en ai profité pour prolonger l'interview.
Nous, fort des contacts qu'on a avec le cabinet du ministre des Affaires européennes ou le secrétariat d'État au commerce extérieur, hein, à Bercy, on a demandé, puis au début de la semaine, d'avoir un accrédit et de pouvoir intervenir comme observateur.
Quelle serait l'utilité justement de cette accréditation?
Ben, l'utilité, c'est d'observer ce qui se passe à l'intérieur et pouvoir communiquer à l'extérieur et dire, au fur et à mesure que les négociations avancent, de dire comment ça se passe. On sait que c'est une situation complètement coincée. Et c'est de voir comment à l'intérieur ça se passe. Et en fait, il n'y a pas de transparence possible puisque les représentants des gouvernements, les chefs d'État et les premiers ministres et les ministres sont enfermés dans une salle et il y a un point presse qui est fait par un porte-parole qui sort tous les quarts d'heure ou toutes les 20 minutes pour faire le point dans le centre de presse, mais qui est détaché du centre de conférence. C'est deux espaces différents.
Vous n'espériez même pas, vous ne l'aviez pas demandé, être admis en tant qu'observateur et éventuellement carrément interlocuteur dans les débats.
Bah, de toute façon, ce n'est pas notre but. Hein. Nous, on interpelle ces organisations et les institutions à d'autres moments que dans ces sommets. Mais au moins, c'était de poursuivre la dynamique de Seattle où il y avait des militants qui étaient à l'intérieur du centre de conférence et qui pouvaient discuter et dialoguer avec les représentations officielles, avec les délégations officielles et discuter avec la presse. C'était, au moins, à Seattle, il y avait un truc, c'est que les ONG étaient aussi à l'intérieur, dehors et dedans. Et ça a été quand même assez efficace parce que la pression qu'on a mise à l'intérieur a été importante. Hein. C'est ce qui nous a permis de travailler avec les pays du Sud et de faire en quelque sorte que Seattle soit l'échec qu'on connaît. Voilà.
Et donc là, vous avez eu la réponse ?
Ben, ce n'est pas l'usage qu'il y ait des organisations non gouvernementales, quelles qu'elles soient, donc ni syndicats, ni associations, comme observateurs dans le Conseil européen. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de transparence. C'est pire qu'une green room, quoi.
Du coup, vous vous retrouvez Grosjean comme devant, vous allez faire quoi ?
Bon, on a quand même convenu de se revoir demain avec la porte-parole du ministère pour faire un point. On a eu le programme qui démarre demain matin. L'affaire qui nous concerne, nous, c'est l'extension de la majorité qualifiée sur l'article 133. Hein. Et apparemment, ça se discutera qu'à partir de vendredi après-midi. Mais en discutant avec elle, on s'est rendu compte que ça allait coincer parce que sur l'ensemble des articles qui sont touchés par cette modification, il y a des tas de pays bon, qui ne veulent pas en entendre parler. Par exemple, la Grande-Bretagne sur l'harmonisation fiscale, l'Allemagne sur la pondération des voix, bon, ça coince de partout. Alors, par contre, ce qui est assez étonnant, c'est qu'il y a des avis contradictoires entre hauts fonctionnaires. En principe, la partie du traité qui concerne l'extension de la majorité qualifiée, c'est un paquet. Et ça doit être adopté en tant que paquet. Et ils vont saucissonner le paquet, retirer tout ce qui coince pour ne faire passer dans le traité que là où il y a un consensus. Et puis alors l'autre truc qui rigole aussi, c'est que la charte, elle est proclamée, elle est considérée comme adoptée. Demain, c'est une signature et proclamation officielle.
Parce que justement, dans la manifestation, j'avais entendu quelqu'un me dire qu'au contraire, devant la mobilisation, ils avaient décidé de ne pas adopter la charte et de la rediscuter plus tard.
Ben, s'ils n'adoptent pas la charte, il ne reste plus rien. Parce qu'on n'est pas d'accord sur la pondération des voix avec les Allemands, les Français et les Allemands. On n'est pas d'accord sur l'extension de la majorité qualifiée. On n'est pas d'accord sur la charte, qu'est-ce qui va rester ? S'il reste Schengen, la suite est tempérée, l'Europe forteresse, immigration contrôlée. Voilà. Donc le traité de Nice, c'est un flop, quoi. Mais c'est le but du jeu. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, c'est de maintenir la pression, comme on l'a fait à Seattle ou à Prague de l'extérieur, en disant on encercle le sommet pour pas qu'il ait lieu, mais en même temps aussi de maintenir la pression sur le plan politique pour déliter petit à petit, casser petit à petit les éléments du traité de Nice pour qu'il n'en reste plus rien.
Donc malgré la mobilisation, finalement, il y a quand même un certain blocage, illustré notamment par votre fin de non-recevoir. Vous pensez qu'on va pouvoir instiller un certain mouvement quand même dans tous ces blocages ?
Ben, c'est un point de vue personnel, mais je pense que la pression, elle est à la fois dans le rapport de force, c'est la visibilité dans les moments comme celui-là, mais c'est aussi, il faut aussi rendre visible ce rapport de force entre les réunions, entre les sommets. Donc maintenir la pression, parce que la charte, il l'adopte pas aujourd'hui, peut-être, c'est pas sûr du tout, en tout cas, à 3h d'après-midi, elle était encore inscrite au programme. Ils peuvent la reculer et confier ça à la présidence suédoise ou à la présidence belge, mais entre les deux sommets, il va falloir continuer à maintenir la pression. Si on veut une charte de droit européen, c'est une charte qui tire les normes vers le haut, qui tire les droits vers le haut, et non pas une charte qui tire les droits vers le bas, comme c'est le cas aujourd'hui. D'une part. D'autre part, cette question de l'élargissement, on peut tous se dire on est pour l'élargissement de l'Union européenne, mais à quelles conditions ? Si c'est pour que les pays riches de l'Union européenne vampirisent les pays candidats, notamment la Pologne, qui est un des premiers candidats, il est absolument de question. D'ores et déjà, on peut dire que l'entrée de la Pologne dans l'Union européenne, c'est la fin de la paysannerie polonaise. Hein, c'est faire de la Pologne un pays, bon, une espèce de terre où il n'y aura plus de paysans, quoi. Une agriculture hyper intensive pour alimenter effectivement les greniers nécessaires des pays riches de l'Union européenne.
Comment est-ce que, d'après vous, la pression d'une mobilisation comme celle d'aujourd'hui est ressentie dans les cénacles de l'Union européenne ?
Alors, déjà au niveau français, on a senti dans les discussions qu'on a eues dans les 15 jours qui ont précédé ce sommet, qu'on est dans la configuration qui ressemble un peu à celle de l'AMI, la bagarre contre l'accord multilatéral sur investissement. C'est la pression de l'opinion publique qui fait que le pouvoir politique peut changer de position, voire durcir sa position. Et sur l'affaire du 133, on est dans le même cas de figure. C'est parce qu'il y a une mobilisation du secteur de la culture et l'audiovisuel et tous ceux qui sont concernés par les services publics, c'est-à-dire quand même une grande partie de la population, une pression des mouvements de sang, hein, les chômeurs, les précaires, les sans-logis, etc., qui fait qu'effectivement, cette pression est visible et que un gouvernement soi-disant de gauche peut se dire attention, là, on risque de déconner. On rentre en France dans une perspective, enfin, campagne électorale, et que c'est pas du tout le moment pour la gauche de voir descendre dans la rue des dizaines de milliers de chômeurs, de sans-logis, d'immigrés, etc. Donc ils cherchent à calmer le jeu. Mais c'est à double tranchant en même temps. C'est-à-dire qu'on n'est pas, nous, co-gestionnaires de cette crise. Nous, on fait pression parce qu'on estime que c'est l'égalité d'accès aux droits et qu'il est hors de question de faire de l'Europe une Europe forteresse. Mais c'est pas forcément la position d'autres pays de l'Union européenne. On a, nous, en France, une gauche libérale, mais ailleurs dans l'Union européenne, si c'est à gauche, c'est encore plus libéral qu'ici. Je n'ai qu'à voir ce qui se passe en Grande-Bretagne, hein, ou en Belgique, ou en Allemagne. C'est beaucoup plus dur qu'ici. Et puis, le rapport de force aussi, c'est-à-dire qu'en fait, ils sont en train d'essayer de diviser le mouvement social européen en mettant les mouvements sociaux, les partenaires, les uns contre les autres. Les travailleurs du nord de l'Europe contre les travailleurs du sud, les chômeurs, etc. Et c'est pas ça notre truc. Notre truc, c'est au contraire de faire en quelque sorte que le mouvement social européen soit complètement unitaire et convergent. Et pas de mettre face à face et dos à dos les paysans du sud et les paysans du nord, les chômeurs du sud et les chômeurs du nord, etc. C'est la même configuration que dans l'Organisation mondiale du commerce. Il n'y a pas de concurrence entre travailleurs de part et d'autre de la planète. Au contraire. Et ça, c'est difficile parce que c'est à nous. On voit le clivage entre les syndicats et voilà, entre la CES et les gros syndicats et les petites organisations ou les syndicats plus à gauche. Il y a une division dans le mouvement social et il y a une division entre les syndicats. Mais les gros syndicats, ils jouent le jeu de la gauche libérale. Hein, ils sont dans la co-gestion en ce moment.
Demain, après la tentative de blocage du sommet, on passe à un autre volet, c'est-à-dire le contre-sommet à proprement parler, avec une série de conférences, de débats, etc. Vous y participez ?
Moi non, parce que j'ai du boulot à Paris et que ma préoccupation, c'est surtout Genève, Bruxelles, Washington. Hein.
L'Observatoire de la monnaie.
L'Observatoire est présent, comme est présent dans tout genre de manifestations. Mais encore une fois, on est dans le réactif, on est contre. Alors que pour nous, l'objectif, c'est aussi de dire, de se retrouver dans le mouvement social, de dire pourquoi on est, quelle alternative à la politique libérale. Et il est indispensable de mettre en place un forum type Porto Alegre, par exemple, qui nous permette de dire pourquoi. C'est ça qui est important. Et cette dynamique-là, elle ne peut pas se faire du jour au lendemain. Donc des réunions comme celle de demain, c'est déjà une petite pierre, un petit moment où on pourra se dire bon, quelle alternative à la politique libérale qui nous est imposée aujourd'hui partout. Mais ce n'est pas suffisant. Moi je pense qu'on nous dit toujours penser global, agir local. Moi je pense qu'il faut aussi penser local pour agir global. Je crois tout à fait les petits mouvements de paysans, les mouvements de jeunesse, d'artistes, de squatteurs, etc. C'est du penser local qui permet aussi d'agir globalement et de faire des événements comme celui de Prague ou comme peut-être demain à Nice.
J'ai perdu ma gonzesse hier, ma maison, ma cage et mon chien. J'ai voulu me noyer dans la bière, mais rien ne nage mieux qu'un chagrin. J'ai perdu mon job, mes amis, mon argent et tous mes petits droits. Le suicide de mon canari m'a plus flingué que si c'était moi. Et à quoi qu'à faire que de gueuler ou faire la pute à l'aide sociale ou prendre son petit ukulélé pour croire au rire quand ça va mal. Et à quoi qu'à faire que de gerber tout son malheur et tout son mort quand y en a marre d'être entubé, d'être abonné aux sœurs fatales. Quel est le prince, quel est le roi, le bon papa, le grand sauveur, le grand seigneur qui nettoiera toute la rage de nos cœurs. Oups, voilà dérapage, la petite charnière de cette chanson. Quand dans un bled il y a de la rage, tout est prêt pour les pièges à cons. Yeah, les profiteurs de lendemain, assis sur leur fierté simpliste, profitent du blues des gens qui ont rien, avec leurs connes idées fascistes. Un monde trop beau, plein de gens purs, de l'argent pour ceux qui méritent. Plus de problèmes, plus de coups durs, et de beaux flics qui ont la frite. L'exploitation est comme une cam, quand on a peur de s'envoler. Y a plus que les chefs qui ont une âme, on se moutonne pour s'oublier. Moi j'ai rien dit, moi j'ai rien fait, je suis un brave type dans la ronde. J'ai tout compris, je sais ce que c'est, et c'est ainsi que voit le monde. Un fatalisme grand comme ça, c'est marche ou crève, c'est bien connu. Leur foi est un suicide en soi, leur idéal n'a pas d'issue. C'est toi qui payes leur bagnole, ton esclavage et leur richesse. Le fric que tu fous dans l'alcool engrosse leur banque à fond la fesse. Adolphe, Benito, Jean-Marie ont exploité la même formule. Y'a rien à faire, faut que j'en ris. Derrière le drame, y'a le ridicule. Y'a pas de solution finale, de capital qui aide les gens, de prince délivrant du mal, de bon Dieu dont tu es l'enfant. Y'a pas de paradis en haut, ni d'enfer quand tu es sur terre. Y'a pas de gloire à être salaud, ni de victoire à faire leur guerre. Alors arrête de gémir, de pleurer sur la fin des temps, de croire qu'il n'y a pas d'avenir, sauf de te flinguer pour leur argent. Il nous faut retrouver nos frères, ceux qui comme nous se sentent lourdés. Ensemble on vit moins la misère, ensemble on peut se décider. Du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, il y a un monde à conquérir, avec tout l'espoir qu'il nous reste, et nos gamins et leur avenir. Point des propagandes ricaines, point des mensonges et traditions. Ce discours n'appelle pas la haine, c'est le temps d'une transformation, d'une révolution. Oh, d'une révolution! Ce baratin est invendable, mais je ne le crois pas dépassé. Il vivait bien dans mon cartable, et maintenant il s'est envolé. Comme une chanson d'espoir! Comme une chanson d'espoir! Comme une chanson d'espoir! Comme une chanson d'espoir! La 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 la!
Malgré tout l'optimisme des manifestants, les dirigeants européens ont fait fi des mouvements de la rue et ont donc signé la charte des droits fondamentaux d'entrée de jeu, histoire d'expédier tous les sujets qui n'étaient pas en rapport avec les réformes nécessaires à l'élargissement de l'Union. Il s'agissait de décider combien de commissaires la Commission européenne pouvait décemment supporter, en d'autres mots de savoir si à l'avenir chaque pays aurait encore le sien. Il fallait également repondérer le nombre de voix de chaque pays membre pour les décisions à la majorité qualifiée. À partir de ce moment-là, on a assisté jusqu'à la fin du sommet à un énorme marchandage et à des comptes d'apothicaires qui n'ont trouvé qu'une solution très partielle. Le reste des problèmes est remis à plus tard et personne ne s'en étonnera sincèrement. Mais le grand événement de ce premier jour du sommet officiel, c'était évidemment les violences qui en ont marqué l'ouverture. À en croire la presse, Nice a été envahie ce jour-là par des casseurs décidés à en découdre avec les CRS à défaut de pouvoir entraver le bon déroulement du sommet. Premier constat sur la grande diversité médiatique, tous les journaux ont publié en bonne place la même photo d'un manifestant vu de dos qui lance une grosse poubelle le plus loin qu'il peut. Des milliers de photos ont été prises ce jour-là et tous les journaux ont choisi la même. Rien de neuf de ce côté-là. À part ça, on lit dans notre presse pas mal de bêtises, il fallait s'y attendre. La Libre Belgique fait très fort de ce côté-là et elle sort de la naphtaline son vocabulaire le plus méprisant pour parler des opposants qui étaient restés jeudi à Nice pour tenter de bloquer le sommet. La Libre parle notamment d'une horde de jeunes autonomes, de technos allumés, de barbus anarchistes, de nationalistes basques et de syndicalistes alternatifs. Pour Christophe Lanfalussy, je cite, « une minorité bien organisée a mis le feu aux poudres », ce qui est archi faux, on le verra tout à l'heure. Il paraît aussi que les manifestants si bien organisés avaient pris soin de cacher la veille des cocktails Molotov dans les bouches d'égout. L'ennui, c'est que ni moi ni les personnes que j'ai interrogées n'ont vu le moindre cocktail Molotov à l'horizon. Tout le monde était sans doute aveuglé par les gaz lacrymogènes, sauf le journaliste de La Libre, qui insiste aussi sur l'exclamation d'un anarchiste qui s'est écrié devant la BNP en feu « c'est beau, une banque qui brûle ». C'est évidemment une citation du même anarchiste, déjà décrédibilisé aux yeux des lecteurs de La Libre, qui est choisi pour expliquer sommairement les défauts de la charte. Dans Le Soir, c'est un rien plus équilibré ou plutôt moins déséquilibré. Bien sûr, Le Soir parle de course-poursuite entre flics et voyous, mais il laisse la parole à deux habitants des quartiers qui ont été le théâtre d'affrontements et qui soutiennent néanmoins les manifestants, l'un parce qu'on nous fait bouffer de la mer dès que l'essence est trop chère, et l'autre parce qu'il est acculé à la misère et qu'il reproche à Jacques Perra la violente répression policière, sans oublier de rappeler qu'il est issu du Front National. Le Soir parle même en son nom propre d'une police désorganisée et paranoïaque, et ce n'est qu'en lisant plus loin qu'on comprend pourquoi. Plusieurs journalistes qui se sont approchés de trop près des brigades anticriminalité avec leurs caméras ont été molestés par les flics. Un réflexe donc vaguement corporatiste, mais qui a au moins le mérite de rétablir quelque peu l'équilibre. Juste pour prouver la qualité des informations du Soir, on lit en fin d'article que l'après-midi a été calme, mais que les violences ont repris dans la soirée, alors que c'est exactement le contraire. Alors que Le Soir estime que c'est la manifestation qui est très violente, il faut souligner que la violence est venue au contraire de cette police qualifiée de désorganisée et paranoïaque. Le matin, je me trouvais dans le cortège le plus pacifique, composé principalement de membres d'attaque et des marches européennes contre la précarité et de militants kurdes. Alors que ces gens se contentaient de manifester sans violence aucune, ils ont tout de suite essuyé des nuées de gaz lacrymogène. Le fait même d'être rassemblés dans la rue méritait apparemment ça. Pourtant, de ce côté-là, aucune violence à signaler. C'est de l'autre côté du centre de conférence que les échauffourées ont commencé. Là, exactement le même scénario, sauf que la foule était plus nombreuse et qu'elle comptait en son sein des gens qui n'ont pas l'habitude de se laisser provoquer sans réagir. Visiblement, les flics avaient pour consigne non seulement de ne tolérer aucune présence dissidente, mais en plus de provoquer des incidents violents, sans doute pour discréditer la vague contestataire. En début d'après-midi, les échauffourées se sont concentrées autour de la salle Léry. Je suis arrivé sur les lieux au moment de la première salve de gaz lacrymogène envoyée sur des manifestants venus négocier pacifiquement avec la police, comme nous le raconte ce témoin.
On était là pour faire une manifestation pacifiste pour libérer un camarade qui était emprisonné lors de l'occupation du l'Acropolis ce matin. Et alors qu'on était déterminé à que ça se passe dans le calme, on a été pris par des gaz lacrymo de côté, alors qu'on essayait de négocier, juste au moment où on essayait d'entamer des négociations. C'est-à-dire qu'il n'est même pas possible de discuter.
Il y a des blessés, là ?
A priori, non, mais beaucoup de personnes ont été lacrymogènes, ce qui est extrêmement désagréable et qui n'est pas normal dans la conscience humaine. Je ne peux même pas définir, alors que je suis non-violent, je suis là pour essayer de faire libérer mes camarades, et on se fait traiter, c'est même pas humain ça.
Et donc pas de nouvelles de celui qui est emprisonné.
Et donc il y a un avocat qui on va recevoir des nouvelles incessamment sous peu, il y a un avocat qui a été reçu, mais il n'y a aucune raison qu'il soit détenu alors qu'il participait à une manifestation humaine pour faire reconnaître nos droits.
Comment ça se fait que lui se soit fait arrêter ?
Tout simplement parce qu'il s'est retrouvé tout seul alors qu'il y avait une percée ce matin pour pouvoir accéder à l'Acropolis pour demander est-ce qu'il y a une délégation qui vienne pour proposer des lois qui sont rédigées par le peuple, donc par des personnes qui sont au chômage, par des personnes qui sont architectes mais qui veulent construire des logements décents et pas pour des systèmes des cages à lapins, c'est comme ça que j'appelle les immeubles pour les promoteurs ou des personnes qui désirent avoir des droits. Donc chacun essaye de se battre pour ses droits et c'est même pas possible qu'on nous entende, c'est-à-dire qu'on n'a aucune place à ce niveau-là.
Une équipe de la VPRO, une chaîne de télévision publique hollandaise, était également sur place et m'a confirmé que la police avait envoyé du gaz sans aucune raison. Évidemment, la réaction ne s'est pas fait attendre et pendant près d'une heure, le quartier autour de la salle dévolue au contre-sommet a été le théâtre d'affrontements avec gaz et autopompes d'un côté et cailloux de l'autre. Finalement, la plupart des participants au contre-sommet se sont retrouvés dans la salle Omnisport Léry où devaient commencer les conférences du contre-sommet, mais devant la tournure que prenaient les événements, elles ont été annulées. Alors qu'il y avait au sommet officiel 3000 journalistes, très peu de journalistes étaient présents dans les environs de la salle Léry. J'en ai pourtant trouvé quelques-uns, je les ai aussitôt interrogés.
Je m'appelle Ania Vogel, V-O-G-E-L, et je suis donc de Radio France. Je couvre notamment les sessions du Parlement européen à Strasbourg et je suis venue là en renfort puisque France Info fait une radio non-stop avec des journaux toutes les demi-heures. Donc on est venus tous les spécialistes européens, entre guillemets, pour suivre le Conseil européen et évidemment aussi les à côté. Donc c'est pour ça que je suis là.
Les à côté, d'accord, mais pourtant vous êtes une des très rares représentantes des médias officiels ou dominants ou traditionnels, on les appelle comme on veut, à venir jusque dans le centre et interroger les contre-sommettistes sur ce qui s'est passé. Comment est-ce que vous expliquez l'absence du reste de la presse ?
Je ne suis pas d'accord avec vous, j'ai quand même vu deux télés déjà. Là j'ai vu France 2 tout à l'heure, j'ai vu une télé tout à l'heure quand je suis arrivée.
Oui, la télé hollandaise, ce n'est pas pour les infos, c'est pour un documentaire.
D'accord, bon, alors nous en tout cas on vient régulièrement, on est plusieurs, hein. on est 4-5 journalistes à faire notamment l'extérieur aussi, les manifs, le contre-sommet, les différents rendez-vous, on fait des reportages, c'est normal. Il y a le sommet et puis il y a le contre-sommet, c'est tout à fait normal. Il y a des, bah, notamment ici des députés européens qui viennent présenter, parler de constitution européenne, parler de pollution maritime, parler de sujets qu'ils connaissent et sur lesquels ils bossent toute l'année. Moi je les vois plancher, même si ça semble un peu obscur, tous ces textes qui sont votés, bah, notamment au Parlement européen à Strasbourg, c'est des gens qui travaillent et donc c'est normal qu'ils viennent ici. Ils l'ont annoncé au Parlement européen qui viendraient là. C'est aussi notre boulot de venir voir ce qui se passe. Alors c'est vrai que ce qui est un peu triste, c'est de voir que tout le monde est triste parce que c'est un lieu de débat, un contre-sommet. En même temps, ça ne peut pas se passer comme c'était prévu parce qu'il y a toujours des casseurs, il y a toujours des incidents. Tout à l'heure, j'étais dans ma voiture à faire un papier. Il y avait des gens qui secouaient les voitures autour, les gaz lacrymo. Je m'en suis pris plein aussi. C'est dommage, quoi. Et je crois que tout le monde le dit ici, quoi, les organisateurs, etc. C'est toujours dommage qu'il y ait des... qu'il y ait des casseurs qui gâchent tout.
Mais effectivement, donc il vient d'y avoir une répression assez brutale et des incidents de rue. En fait, les représentants de la télé hollandaise à qui j'ai parlé étaient là au moment où ça s'est déclenché. Et ils ont témoigné que les manifestants venaient négocier pacifiquement et que la police a lancé tout de suite les gaz lacrymogènes et que eux considéraient ça comme une provocation de la part de la police et que c'était normal que ça suscite une réaction du type casseur. Je ne sais pas si vous étiez là à ce moment-là, mais sachant ça, est-ce que vous allez répercuter ça de cette façon ?
Je crois, et ici les organisateurs le reconnaissent, il y a de la provocation des deux côtés, c'est évident. Peut-être qu'ils réagissent un petit peu vite, notamment... là, en mettant des gaz lacrymogènes dans la salle ici, c'est complètement débile. Mais peut-être que c'est aussi parce que les gaz sont rentrés, parce qu'ils les ont lâchés un petit peu plus loin. Je veux dire, aller au commissariat parce que des gens ont été interpellés. Moi, je comprends qu'on y aille, mais en même temps, c'est normal aussi que des gendarmes défendent, enfin, puisque c'est la gendarmerie, je crois pas le commissariat. C'est normal aussi que des gendarmes soient obligés de défendre la gendarmerie. Alors moi, j'ai l'impression aussi, comparé à d'autres manifestations, hein, notamment à Strasbourg, on en a quand même régulièrement des importantes. J'ai l'impression quand même qu'ils font effectivement un peu vite usage, notamment des gaz lacrymogènes, mais je crois que c'est peut-être des consignes qui ont été données et c'est vrai que c'est quand même un sommet important. Il y a tous les gens importants de l'Union européenne. Je crois que je comprends aussi ce genre de consignes. C'est évident que nous, au niveau du boulot, on parle des deux, hein, c'est clair.
Je m'appelle Gérard Maximin et je suis réalisateur pour une émission qui s'appelle Trax sur Arte.
Vous êtes là, c'est pour une émission plutôt documentaire. Il se passe beaucoup de choses du côté du contre-sommet, pas mal de répression. Il y a 3000 journalistes qui sont du côté du sommet et bizarrement on en voit très peu. Il y a une journaliste de France Info, pour le reste des équipes plutôt documentaires. Comment est-ce que vous expliquez cette absence de la presse d'actualité immédiate ?
Cette absence de la presse, c'est assez courant en fait. C'est toujours c'est des sujets assez courts en général qui se bornent à répéter. Enfin, c'est un peu de la propagande, hein, on la connaît. Nous, on travaille sur des émissions plus de fond. Donc, ce qui nous intéressait, c'est de pouvoir suivre des jeunes. Donc, on est parti à Gênes suivre les Yabasta et le mouvement en fait Tout est blanqué. Parce que on trouvait qu'il y avait une nouvelle forme en fait de contestation qui était en même temps qui était pas c'était pas un pacifisme passif où on s'assoit par terre et on fait rien, donc c'est des radicaux, ils rentrent dedans, ils rentrent dans là, mais sans violence et avec ce système de protection donc qu'ils ont réussi à mettre au point, qui fait qu'ils ont un petit peu moins peur des coups, donc ils continuent à avancer, ils sont bien organisés, ils ont absolument rien cassé alors qu'ils ont traversé toute la frontière, enfin toute la ville de 26 000 jusqu'à l'autoroute. Il n'y a eu aucun heurt, ils se contrôlent extrêmement bien. Et ils ont su garder cet esprit finalement de fun, de fête, qui manque parfois aussi à certains partis et certains groupes. Hein, parce qu'il faut bien dire qu'aujourd'hui les jeunes sont assez dépolitisés et que pour les faire revenir un petit peu à la lutte sociale, faut aussi qu'ils sentent que... faut pas être maso, enfin faut avoir envie de s'amuser aussi. Non mais c'est important, je crois que c'est... on aime tous s'amuser. Quoi. Je crois que le militant pur et dur aujourd'hui a disparu ou alors il est devenu chiant.
Là, il vient d'y avoir pas mal de violences, pas mal de casses dans les rues autour de la salle du contre-sommet. J'ai interrogé la journaliste de France Info qui parlait de casseurs, etc. Je ne sais pas si vous étiez là au moment où ça a commencé.
On est arrivé, je crois qu'on est arrivé un tout petit peu après l'histoire de la caserne, qui a pris feu. Bon, ce qu'on a constaté, nous, c'est qu'effectivement, de toute façon, la police n'a absolument pas de volonté de discuter. Hein. Je crois que c'est très clair. C'est dès qu'on approche un petit peu de l'acropolis, c'est lacrymo tout de suite. Et en fait, leur rôle, c'est de cantonner tout le monde autour du gymnase. Ils ont réussi, ça leur permet de contrôler la situation et que le reste des habitants puissent avoir leur manteau de vison sur le dos et continuer à faire leur course pour les fêtes qui approchent.
Vous pensez qu'il y a peut-être une stratégie délibérée de la police d'essayer d'empêcher le contre-sommet ou pas ?
Oui, je pense qu'on peut le dire. Ouais. Enfin, de l'empêcher, en tout cas, de faire en sorte qu'il n'ait aucune...
aucune répercussion, parce qu'effectivement la seule manière de pouvoir un petit peu s'exprimer et de pouvoir sensibiliser l'opinion publique, c'est d'essayer de monter sur l'Acropolis, et là ça passe pas. On s'est dit bon, on les comprend, il y a 29 chefs d'État, effectivement ils ont pas envie qu'il y ait ils ont pas envie du tout qu'il y ait de débordement, et donc ils discutent pas, on discutera après quoi, hein, c'est plutôt leur... Par contre, justement, c'est dommage que les Italiens n'aient pas pu passer, parce qu'avec cette forme de des petits jeunes qui ont des gentilles petites têtes d'étudiants avec les mains en l'air et un grand sourire, et je pense que ça aurait pu, on aurait pu s'approcher un petit peu plus de l'endroit où se passe le sommet. En fait.
Là, je suppose que vous avez fait de belles images de violence, de casse de part et d'autre, etc. Comment vous allez les commenter?
Comment on va les commenter? C'est une bonne question. Ben non, on va montrer qu'il y a toujours des jeunes qui sont décidés, en fait, et que l'intérêt, c'est comme on a tourné avant qui étaient ces jeunes, et qu'on montre que c'est des gens aussi bah, qui aiment bien faire du BMX, du skate, et qui c'est pas forcément des gens embrigadés. Mais c'est pas, ça va pas être le fond de notre sujet, hein, les actes de violence. On va en mettre parce que ça s'est passé, pour dire que... En fait, ce qu'on va surtout faire, nous, c'est récupérer des images d'EVN, des images des chaînes nationales, pour montrer l'extérieur, puisque nous sommes à l'intérieur, hein, on a plus tourné le côté off. Donc c'est plutôt, en fait, montrer, on va garder plutôt leurs commentaires à eux, voilà ce qui se dit, et voilà ce que nous, on a vu, histoire de faire un contraste. En fait, on a une démarche, moi je suis pas journaliste, par exemple, je suis réalisateur, donc c'est une démarche un petit peu différente, où il y a une forme de subjectivité, mais qui est claire dès le départ. C'est pas une fausse objectivité où en fait tout le monde dit la même chose comme par hasard.
Juste une précision, le commissariat n'a pris feu que dans un sens parfaitement figuré, puisqu'il est resté intact. Signalons encore que la RTBF a estimé dans son JT que les antimondialistes avaient atteint leur objectif à Nice, puisque pour la RTBF, leur principal objectif était de faire parler d'eux, ce que la RTBF a fait sans écouter ce qu'ils avaient à dire. Pour terminer, un petit florilège des réactions officielles, à commencer par Pascal Lamy, le commissaire européen français qui négocie pour le compte de l'Union européenne tout ce qui touche au commerce mondial. Il a estimé que les manifestations en marge du sommet de Nice étaient positives parce qu'elles indiquent que les citoyens de l'Europe se sentent concernés par ce qui est fait. « Je crois que c'est une forme d'expression », a-t-il conclu. C'est effectivement finement observé de sa part, il s'agit bel et bien d'une forme d'expression. Encore ne suffit-il pas de le constater. D'une part, il faut se demander pourquoi, dans une Europe réputée démocratique, des citoyens se sentent obligés d'exprimer des revendications dans la rue. D'autre part, si on se réjouit de cette forme d'expression, il serait bienvenu d'en tenir compte, ou au moins de faire semblant. Il y a eu aussi la réaction des frères ennemis, j'ai nommé le duo Chirac-Jospin. En chœur, ils ont condamné solennellement les violences, précisant que ces agissements vont à l'encontre des valeurs de démocratie et de liberté qui ont fondé l'Europe, valeurs défendues, matraque à la main, par 4000 CRS massés dans les rues de Nice. Visiblement, l'expression est donc démocratique lorsqu'elle se fait dans un sommet qui rassemble des gens élus par des élus, voire élus par des élus qui étaient eux-mêmes élus par des élus, c'est-à-dire des élus au troisième degré. L'expression des consommateurs est elle aussi immanquablement qualifiée de démocratique. Par contre, lorsque ce sont des électeurs, des citoyens qui ne vivent pas forcément pour consommer, qui martèlent leur message dans la rue et qu'ils se font brutalement réprimer, leur action est contraire aux valeurs de démocratie et de liberté. C'est à se demander si le sommet et la base parlent encore la même langue. C'est la fin de ce spécial Nice d'Alter Echo. Je vous rappelle la rediffusion de ce vendredi à 14h. Je vous rappelle également que vous pouvez retrouver les textes et les sons de cette émission sur le site internet www.multimania.com/alterecho en un mot. Je vous rappelle le rendez-vous de la semaine prochaine, mercredi 22h sur la même fréquence, pour une émission entièrement consacrée au passage de Pierre Carl à la RTBF. D'ici là, n'oubliez pas la diffusion de son film, jeudi soir sur la 2 à 21h05 et dimanche soir à 23h20 sur la 1. On en reparlera la semaine prochaine.
Radio Campus, une petite claque aux grandes mauvaises radios.
Aïe!